Bonjour à tous, parlons-en. 10 minutes sans tabou où l'on peut tout se dire. Elodie Benmadi, thérapeute, je suis ravie comme toujours de partager avec vous cette chronique qui vous est dédiée. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un mot, d'un seul, le mot « droit ». Ce mot, nous le connaissons tous très bien, à tort ou à raison, ce mot fait partie des 300 mots les plus utilisés en langue française. On le dit et on l'entend même entre 15 à 40 fois par jour pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas qu'un mot de justice, même les médias s'en sont accaparés. En moyenne, un média l'utilisera 20 à 40 fois lors d'un reportage ou d'une émission. Pour avoir une jauge, dites-vous que chacun d'entre nous utilisons les verbes « être » et « avoir » seulement 100 fois par jour. Donc à eux trois, ces mots « droit »,« être » et « avoir » reflètent le contenu de nos conversations, nos envies, nos réclamations, nos joies, nos colères. Avoir le droit, perdre le droit, prendre le droit, braver le droit de… Pourquoi ce mot nous hante? Pourquoi est-ce si important pour nous, synonyme de liberté pour certains d'entre nous? Il devient synonyme de douleur pour d'autres. À chaque étape de nos vies, nos droits diffèrent et pourtant nous sommes tous régis aux mêmes règles. Pourquoi le mot devient-il tabou? À quel âge ai-je le droit de répondre à mon droit? Mon éducation m'impose-t-elle des droits qui ne me correspondent pas, avec lesquels je ne suis pas d'accord, ce qui ne correspond pas à mes valeurs? Comment savoir quels sont nos droits lorsque l'on est un enfant? Pour nos petits, comme pour les grands d'ailleurs, le mot « droit », c'est pas un mot en l'air. Il est régi par les lois applicables contre diverses sanctions. Enfant, tu as le droit, dans n'importe quelle circonstance, à vivre en sécurité et à avoir accès à la santé. Enfant, tu as le droit à la protection morale et psychologique. Les adultes ont un devoir de protection contre tout ce qui peut te nuire psychologiquement. Enfant, tu as le droit d'être préservé de toute violence, de maltraitance ou de danger. Enfant, tu as le droit d'avoir accès sans contrainte aux besoins fondamentaux de survie. Pouvoir te nourrir et manger à ta faim, être logé de façon décente, pouvoir t'habiller et être assuré que tu as accès aux besoins matériels. Tu as le droit à l'instruction, à une éducation scolaire pour être prêt à une vie sociale et développer ton autonomie. Tu as le droit à être respecté dans ta dignité. Tu as le droit d'être écouté et entendu sur les décisions qui te concernent. Le droit va du petit grain de sable à l'énorme montagne. C'est pour ça que l'équilibre est fragile. Que toute ta vie, tu vas te battre pour faire entendre ton droit. Ou te battre pour qu'enfin certaines mentalités changent et obtenir légalement le droit d'eux. Petit enfant, nous sommes comme une éponge. La seule chose que l'on veut, c'est être aimé de ses parents. Alors le droit n'a pas réellement de curseur dans nos têtes. On entend juste à longueur de journée « tu as le droit, tu n'as pas le droit, je t'ai dit non, ça c'est interdit ». Petit, on obéit à une restriction sans référence, sans avoir encore atteint la maturité et la capacité d'analyse à juger la nature de ce droit ou de cette interdiction. La société englobe tout ça dans un grand mot, l'éducation. De façon générale, l'éducation reste possiblement applicable dès le plus jeune âge. À partir de 18 mois et jusqu'à une dizaine d'années, l'enfant répond poliment aux demandes et aux règles de ses parents. L'enfant grandit, la notion de droit prend tout son sens et se développe comme un outil d'émancipation et libérateur chez nos jeunes. L'enfant a répondu depuis des années aux bons droits de ses parents ou de ses référents d'autorité. Et c'est le moment de faire les comptes. Quelles sont mes valeurs à moi? Quels sont mes besoins à moi? Quelles sont mes attentes? Qui suis-je vraiment? Le parent construit, guide son enfant avec ses propres références d'éducation, ses propres valeurs et attentes de la vie. Chaque individu est différent, unique, même lorsqu'il s'agit de nos enfants. Un ado rentre en contradiction, pas par rébellion, mais parce qu'il considère à présent, qu'il est en capacité de prendre ce droit ou pas. Que personne ne doit lui dicter le bon droit. Parfois, défaut, je vous l'accorde, mais se tromper, c'est son droit. Faire des erreurs, c'est son droit. Vouloir vivre loin des gens qu'il considère toxiques, c'est son droit. Faire en sorte que lui-même s'accorde à sa façon le bonheur, même si ce n'est pas le reflet de nos envies en tant que parents, c'est son droit. Notre job en tant que parents, il est plus dans l'accompagnement de ce droit pour lui transmettre la notion de moralité, de protection, de respect, d'humanité, pour qu'il fasse une bonne utilisation de son bon droit. Nous le savons, nous avons un garde-fou à cela. Ces gros livres rouges où sont inscrites sans équivoque toutes les lois qui régissent notre pays. Le code civil, le code pénal, le code du travail, tout cela nous réglemente. Il délimite nos droits. Il reste essentiel d'avoir tous le même cadre en matière de droit. Rien ne nous empêche de revendiquer un droit, d'exprimer une frustration, une injustice, mais les lois sont là pour nous apporter une réponse, une limite. Lorsque l'on parle de droit, je ne peux pas m'empêcher de basculer dans un esprit de prévention sur ce que nous n'avons pas le droit. Si nous avons des droits, nous avons adultes, surtout des devoirs. Nous sommes responsables de nos enfants, tout du moins jusqu'à leur majorité, soit en France, l'âge de 18 ans. Après études et vérifications sur le terrain dans mon propre quotidien professionnel au cabinet, on peut catégoriser 5 grandes violences psychologiques exercées sur l'enfant qui soulignent là un non-respect de son droit. En consultation, je reçois des patients de 4 à 92 ans actuellement. Enfants ou adultes expriment des douleurs présentes ou passées qui restent ancrées si elles ne sont pas verbalisées, travaillées pour être soulagées et analysées. L'accompagnement thérapeutique est là pour ça. Le refus de réponse affective revient souvent. Ce sont des enfants chez qui nous n'écoutions pas les émotions. Le fameux « c'est rien, tu fais du cinéma, mais non, t'as pas mal, va jouer ». Il transparaît aussi un refus de réconforter l'enfant. « Arrête de pleurer !» ou même de se moquer de son émotion. « Oh là là, t'es pas belle quand tu pleures !» Et là, on est dans des réflexions plutôt soft. Dans les cas les plus graves, les violences psychologiques peuvent être un climat quotidien dans un milieu familial instable. « T'es bien qu'une chienne comme ta mère. T'es aussi lâche que ton père. Et qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Pourquoi je t'ai mis au monde si j'avais su ?» Et bien d'autres. La dévalorisation de l'enfant répond à un non-respect de son droit fondamental. On parle là de mots, attitudes verbales ou non-verbales, qui ont pour but de rabaisser l'enfant volontairement et de le dévaloriser. Faire honte à l'enfant et l'humilier en public, prendre un enfant d'une fratrie comme bouc émissaire. Le priver d'interaction aussi. Isoler son enfant, c'est le priver de sociabilisation et de communication. L'enfant n'est pas libre de ses propres mouvements. Il est captif au sein de son domicile, coupé de tout lien extérieur. Il n'a pas le droit d'inviter d'amis ni de se rendre à des invitations. Il existe aussi la terreur. Le mot fait peur lui-même, mais pourtant, il est très présent dans certaines méthodes éducatives pratiquées par certains parents. Fixer à son enfant des objectifs irréalistes en le menaçant de sanctions si elles ne sont pas atteintes. L'enfant peut également être placé dans un cadre, une situation dangereuse pour lui, malgré la présence de ses parents. Un lieu, une conversation non adaptée à son âge. Tirer parti des peurs de l'enfant est fréquent. « Je pars sans toi si tu te dépêches pas. » Des phrases telles que celle-ci laissent un marquage neurologique émotionnel très fort. L'enfant entend quoi ? « Si tu ne fais pas comme je dis, je t'abandonne. » Ce système est également lié parfois à de graves manipulations. « Tu gardes notre secret, sinon je ne t'aimerai plus. » La terreur est fréquente dans nos foyers. Une maîtrise de toute puissance sur notre enfant. Cela ouvre la porte sur les violences familiales sous couvert du secret. Une grande violence de l'enfance reste évidemment l'exploitation. Cela consiste à encourager l'enfant dans des conduites autodestructives, antisociales ou déviantes à l'intérieur comme à l'extérieur du foyer. L'exploitation passe aussi par l'inversion des rôles. L'enfant va prendre la place de son parent et lui-même le prendre en charge, très présent dans les familles où l'alcoolisme règne. À l'inverse, on peut restreindre l'enfant à grandir, l'infantiliser, le rendre dépendant jusqu'à l'âge adulte sans qu'il ne puisse jouir de sa liberté. Cela passe par des restrictions d'apprentissage. Comme vous le constatez, les droits sont liés inexorablement à des devoirs. Nos enfants ont des droits, peu respectés, peu entendus. Pourtant, leur voix compte, elle est réelle, non mensongère. Les enfants qui parlent, il faut les écouter mais aussi les entendre. Il faut les respecter. Respecter le courage qu'ils ont à prendre leur droit à la parole, de dire les choses même si celles-ci nous déplaisent. La justice met encore trop en avant l'importance de préserver le lien parent-enfant, même lorsque celui-ci est refusé par l'enfant lui-même. Dans ce cas, on protège qui ? La réponse est claire. Le parent, pourtant défini comme nocif, toxique, parfois jusqu'à dangereux pour l'enfant. Au nom de quoi ? De l'image sociétale, de l'importance de la stabilité familiale. Alors pour cela, on écrase le droit à la parole de l'enfant. On écrase son droit à la protection. Les associations qui luttent pour le droit des enfants commencent à se faire entendre, mais c'est encore trop peu. Nos enfants, c'est l'avenir de demain. Nos enfants, c'est le reflet de ce que nous transmettons, le reflet de ce que nous sommes. Il faut leur tenir la main, ne jamais la lâcher, les accompagner. Parlons-en, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouvez comme d'habitude le podcast sur le site studiozef.fr. Vos témoignages, vos retours sont les bienvenus. Les coordonnées, parlons-en41@gmail.com. Je lance d'ailleurs un appel pour un prochain sujet. Vous souhaitez témoigner. Vous êtes ou avez été victime de problèmes de poids, de grossophobie. Vous n'arrivez plus à vivre avec votre corps ou au contraire, vous vivez pleinement avec votre poids sans souci du regard des autres. Contactez-moi. N'oubliez pas, on ne peut pas empêcher que cela arrive, mais nous pouvons faire en sorte que cela dure le moins longtemps possible. Merci pour ce partage, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt !